Tout au long de cette semaine, les médias nous ont régulièrement sollicités sur des questions d'identité, en particulier d'identité nationale. Vous vous souvenez que dimanche dernier, il y avait les élections européennes, et des questions comme « Sommes-nous français ? Sommes-nous européens ? Sommes-nous français et européens ? Sommes-nous d'abord français et ensuite européens ? Ou l'inverse ?» Voilà. Toutes ces questions se posent. Et puis vous avez peut-être suivi aussi ces chiffres qui sont donnés concernant le nombre de personnes qui migrent d'un pays à l'autre, qui essayent d'entrer dans un des pays européens. Ces migrants qui ont été expulsés à Calais, des hommes et des femmes qui tentent de franchir les frontières pour trouver de meilleures conditions de vie. Ces questions sont complexes. Et on pourrait se poser la question, existe-t-il un lieu d'accueil pour tous où chacun peut jouir de cet accès à une vie meilleure sans discrimination? Sans discrimination de culture, sans discrimination de nationalité, etc. Eh bien, la Bible nous répond que oui. Et la réponse qu'elle donne, c'est l'Église. Dieu a inventé l'Église comme lieu d'accueil de tous les sans-papiers spirituels, de tous les migrants que sont les êtres humains pécheurs. L'Église, c'est l'édifice qui accueille tous les pécheurs rachetés par Dieu. Et j'aimerais ce matin lire avec vous un passage dans la lettre de Paul aux Éphésiens. Lettre de Paul aux Éphésiens dans le Nouveau Testament. Nous lirons quelques versets simplement. Au chapitre 2, Éphésiens, chapitre 2, les versets 19 à 22. Éphésiens 2, versets 19 à 22. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des résidents temporaires. Vous êtes au contraire concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est en lui que tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est en lui que vous aussi, vous êtes édifiés avec eux pour former une habitation de Dieu en esprit. C'est le premier dimanche du mois, nous avons ce matin notre prédication sur la doctrine biblique, les points fondamentaux de la doctrine biblique. Et ce matin, le thème, c'est l'Église, édifice de Dieu. L'Église, édifice ou temple de Dieu. Il y a déjà quelque temps, nous avions parlé dans ce même verset, Éphésiens 2, 19, de l'Église comme famille de Dieu. Peut-être certains d'entre vous s'en rappellent, nous en avions fait le thème de notre week-end d'Église il y a 2 ans. Eh bien, ce matin, nous allons voir ce que Paul dit de l'Église comme édifice, comme temple de Dieu. Et j'aimerais vous proposer de suivre la pensée de Paul dans ce texte en 4 temps, qui correspondent aux 4 versets que nous avons lus. Verset 19, Paul dit « Vous êtes concitoyens ». Et ça, c'est, on pourrait dire, le chantier. On va utiliser, essayer d'explorer un petit peu cette métaphore de l'édifice, de la construction ce matin. Verset 19, le chantier. Comment est-ce possible que nous soyons concitoyens? Et c'est la réponse que donne Paul au verset 20. C'est à cause du chef de chantier. Et nous verrons quel est son rôle. Troisièmement, Paul dit que c'est un édifice qui grandit, qui se construit. Verset 21, la construction ou le projet de construction. Et enfin, quatrièmement, Paul dit « Vous êtes coédifiés ou édifiés ensemble ». Et le verset 22 nous aidera à parler de la coordination des différents corps de métier sur le chantier. Alors commençons d'abord avec ce verset 19. Je le relis. « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des résidents temporaires, vous êtes au contraire concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. » Paul commence par dire « Voilà ce que vous n'êtes plus. Vous n'êtes plus étrangers, vous n'êtes plus résidents temporaires. » Les gens qui sont étrangers ou résidents temporaires dans un pays qui n'est pas le leur sont en général dans une situation sociale assez précaire. Les étrangers n'ont aucun statut et ils ont besoin de régulariser leur situation. Les résidents temporaires ont un peu plus de droits, ils ont obtenu un titre de séjour, mais qui est valable un certain temps et qu'après il faut renouveler ou qui n'est plus renouvelé. Un titre de séjour provisoire. Eh bien, on pourrait dire que tous les hommes, tous les êtres humains, sont dans la même situation que ces étrangers ou ces résidents temporaires sur un plan spirituel. C'est aussi ce que dit Paul dans l'Épître aux Romains, chapitre 3 et verset 23. « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Et voilà le chantier, et qui est en même temps le projet de Dieu. Régulariser la situation spirituelle des êtres humains. Paul s'adresse ici aux Éphésiens, qui sont pour la plupart des chrétiens d'origine non juive, ceux qui sont appelés les païens dans le Nouveau Testament. Et quelques versets avant les versets que nous avons lus, toujours au chapitre 2 et au verset 11, voilà ce qu'il leur dit. « Souvenez-vous qu'autrefois, vous étiez identifiés comme non-juifs dans votre corps, appelés incirconcis par ceux qui se disent circoncis. » Circoncision, c'était la marque d'appartenance sociale au peuple de Dieu. « Et qui le sont dans leur corps par la main de l'homme. Souvenez-vous qu'à ce moment-là, vous étiez sans Messie, exclus du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. » Voilà quelle était la situation sur un plan spirituel des chrétiens d'Éphèse, des habitants d'Éphèse qui sont devenus chrétiens, qui se sont tournés vers Jésus-Christ comme leur sauveur et leur Seigneur. Vous étiez autrefois comme des étrangers pour le peuple de Dieu. Mais maintenant, Dieu vous a ajouté à ce peuple. C'est ce qu'il va dire ensuite. Et le temple qui était à Jérusalem, lui-même, symbolisait cette séparation. Lorsque les personnes entraient dans le parvis du temple, il y avait un écriteau au-dessus de la porte d'entrée qui disait « Attention, si vous franchissez cette porte et que vous ne faites pas partie du peuple de Dieu, vous êtes maudits, vous êtes sous la malédiction de Dieu. » Eh bien, Jésus, par sa vie, par sa mort, par son œuvre, est venu changer cette situation. Et c'est ce que Paul dit au verset 14, toujours dans Éphésiens chapitre 2. « Il est notre paix, lui qui des deux groupes, c'est-à-dire les juifs et les non-juifs, n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur qui les séparait. » Ce mur du temple de Jérusalem, ce mur de haine, ce mur d'inimitié, c'est-à-dire le fait que les juifs et les non-juifs étaient ennemis. Jésus a brisé ce mur par sa mort à la croix. Les non-juifs, les païens, n'avaient pas accès au Dieu vivant. Et ces païens, c'est aussi ce que nous étions, nous qui sommes devenus chrétiens par la foi en Jésus-Christ. Nous étions nous aussi étrangers, ou tout au plus résidents temporaires devant Dieu, sur un plan spirituel. Mais cette situation, elle n'est plus d'actualité pour les chrétiens. Paul dit, vous n'êtes plus étrangers et résidents temporaires, mais vous êtes concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Après avoir dit « Voici ce que vous étiez et que vous n'êtes plus », maintenant Paul décrit le nouveau statut des chrétiens. Vous êtes concitoyens des saints, vous êtes membres de la famille de Dieu. Paul dit « Plus étranger, plus résident temporaire, maintenant vous êtes pleinement citoyen, citoyen à part entière. Votre situation spirituelle a été régularisée. Vous avez obtenu un titre de séjour permanent. Vous avez la garantie divine de la nationalité céleste, d'une nouvelle identité inaltérable, comme nous l'avons lu tout à l'heure. En Christ, nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Le chrétien a obtenu une nouvelle identité. Et non seulement les chrétiens sont citoyens, mais ils sont aussi concitoyens. C'est-à-dire que un chrétien n'est pas citoyen tout seul. Il y a une solidarité avec tous les saints, c'est-à-dire ici tous les croyants, tous ceux qui appartiennent à la famille de Dieu, tous les croyants régénérés de l'Ancien et du Nouveau Testament. Tous ceux qui ont reçu le tampon du Saint-Esprit sur leur nouvelle carte d'identité. C'est aussi le vocabulaire de Paul, toujours dans cette même lettre aux Éphésiens, chapitre 1, verset 13. Il dit « En lui, c'est-à-dire en Christ, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile qui vous sauve, en lui vous avez cru et vous avez été marqués de l'empreinte, c'est-à-dire du sceau du Saint-Esprit qui avait été promis. » Le chrétien, sur sa carte d'identité, il a le tampon du Saint-Esprit qui dit « Tu m'appartiens, tu es mon fils, tu es ma fille bien-aimée. » Et Paul ajoute « Vous êtes non seulement citoyens, non seulement concitoyens, citoyens ensemble, mais vous êtes encore membres de la famille de Dieu. » Membre de la famille de Dieu. Vous voyez, c'est plus qu'une simple formalité administrative où l'on serait une sorte de numéro noyé dans la masse des régularisations. La famille de Dieu, chacun des chrétiens a une place personnalisée. Et Paul dit, voilà ce que vous êtes aujourd'hui, en tant que chrétien. C'est un statut définitif. Vous êtes citoyen, concitoyen et membre de la famille de Dieu. Le droit vous a été acquis de pouvoir jouir de l'héritage promis par Dieu à ses enfants, à savoir la vie éternelle avec lui. Alors, la question que j'aimerais vous poser, en arrivant à ce point, c'est « Et vous ?» Avez-vous changé d'identité spirituelle? Si c'est le cas, est-ce que vous avez saisi tout ce que cela implique par rapport à l'Église, d'être chrétien, d'appartenir à la famille de Dieu? Et si ce n'est pas le cas, eh bien ces paroles de Paul, inspirées par Dieu, vous appellent à changer pour régulariser votre situation spirituelle aujourd'hui. Comment faire? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans le deuxième point. Comment changer d'identité spirituelle ou comment nous souvenir de notre identité de chrétien si nous avons tendance à oublier les fondements? C'est ce que Paul dit au verset 20. Je le relis. « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. » Paul, à partir du verset 20, utilise l'image de l'édifice, l'image du temple. Pour ceux qui sont au fond, vous pouvez vous retourner et voir derrière vous un beau chantier d'immeubles en construction. Eh bien, voilà une image de ce que Dieu est en train de faire avec l'Église. Paul parle ici de trois éléments de la construction. Il y a la pierre angulaire, il y a les fondations, et puis il y a ce qui est ensuite construit dessus. Regardons d'abord la pierre angulaire. C'est une pierre unique, c'est une personne, Jésus-Christ. Paul utilise cette image de la pierre d'angle pour dire « Voilà l'élément fondamental, c'est le cas de le dire, l'élément fondamental des fondations. En général, la pierre d'angle, la pierre angulaire, c'est la première pierre posée et sur laquelle toutes les autres vont être alignées et construites. La pierre d'angle permet de construire droit pour que la structure tienne. Et cette pierre, elle représente l'œuvre de Jésus-Christ. Je lisais tout à l'heure, un peu plus haut au chapitre 2, regardons quelques versets à partir du verset 13, Éphésiens 2, 13. Mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. En effet, il est notre paix, lui qui des deux groupes n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur qui les séparait, la haine. Par sa mort, il a rendu sans effet la loi avec ses commandements et leurs règles, afin de créer en lui-même un seul homme nouveau à partir des deux, établissant ainsi la paix. Il a voulu les réconcilier l'un et l'autre avec Dieu en les réunissant dans un seul corps au moyen de la croix, en détruisant par elle la haine. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et à ceux qui étaient proches. À travers lui, en effet, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père par le même Esprit. Ce qui était impossible à faire, Dieu l'a fait pour nous en Jésus-Christ. Comme nous l'avons dit déjà tout à l'heure, Dieu nous a réconciliés avec lui pour que nous puissions avoir cette relation personnelle, même cette communion avec lui et entre nous. Jésus-Christ a porté par sa mort à la croix le châtiment que méritaient tous les étrangers en situation spirituelle irrégulière, tous les pécheurs. Lui, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, concitoyen de la Trinité divine, est venu vivre et mourir comme un homme en situation irrégulière, alors que lui, tous ses papiers étaient en règle, il n'a jamais péché. Et c'est pourquoi la mort n'a pas pu le retenir. Il est ressuscité, il est monté au ciel, c'était ça le jour férié, jeudi, l'ascension. Jésus est monté au ciel et il s'est assis à la droite de Dieu. Et qu'est-ce qu'il est allé faire ? Il est allé présenter devant Dieu son sacrifice et il a obtenu pour nous le permis de construire de l'Église. Et puis ensuite, il y a la Pentecôte. Le Père et le Fils envoient l'Esprit, c'est ce que nous allons fêter dimanche prochain. Dieu donne son Esprit qui inaugure le début des travaux, la construction de l'Église, temple de Dieu. Voilà le rôle de Jésus-Christ dans le projet de Dieu pour l'humanité. Voilà le rôle de Jésus-Christ, on pourrait dire, comme chef de chantier. Il est la pierre d'angle de l'édifice. Après avoir posé cette pierre d'angle, il y a les fondations. Jésus-Christ a choisi 12 hommes pour poser les fondements. C'est ce que Paul appelle ici les apôtres et prophètes. On pourrait même dire les apôtres prophètes, parce qu'il s'agit vraisemblablement ici des mêmes personnes. Les apôtres, qui sont les prophètes du Nouveau Testament, ceux qui ont annoncé l'Évangile et qui ont mis par écrit les paroles même de Dieu. Les écrits du Nouveau Testament sont l'œuvre des apôtres prophètes du Nouveau Testament et aussi de leurs plus proches collaborateurs sous leur autorité. Alors, la question que nous pouvons nous poser ici, c'est si vraiment Jésus est la pierre d'angle et les apôtres qui ont rédigé une partie de la Bible, le Nouveau Testament, sont les fondements de l'Église. Alors, quelle place y a-t-il pour les paroles de Paul dans notre vie ? Comment est-ce que l'autorité de Pierre nous guide pour faire de bons choix dans notre vie ? Est-ce que nous croyons que lorsque l'apôtre Jean dit « Aimez-vous les uns les autres », ce n'est pas seulement un vœu pieux, mais une réalité à vivre au quotidien. Car Paul dit, vous avez été édifiés sur ce fondement. C'est le troisième point. La pierre d'angle, les fondations, et puis ce qui est édifié sur ce fondement. Vous, les Éphésiens, et puis nous, les croyants du XXIe siècle. Le fondement, c'est l'évangile que nous avons entendu et que nous avons reçu par la foi et qui a transformé et qui transforme encore notre vie jour après jour. Ce fondement, ce sont les paroles de Jésus que les apôtres ont gravées dans cette parole de Dieu, la Bible. Jésus l'illustre de cette manière. Toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je le comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le rocher. Mais toute personne qui entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique ressemblera à un fou qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle s'est écroulée et sa ruine a été grande. Matthieu chapitre 7, versets 24 à 27. Être chrétien, c'est avoir au fondement de son identité et de ses actes un rocher inébranlable et indestructible, nous l'avons chanté tout à l'heure. Un rocher qui nous garantit que la construction va tenir malgré les tempêtes de la vie. Pourquoi ? Eh bien parce que lorsque Dieu commence la construction, il va jusqu'au bout. Ce n'est pas une garantie de risque zéro, mais une garantie que Dieu s'est donné à la fois une obligation de moyens, il a envoyé Jésus-Christ pour cela, et une obligation de résultat, édifier un temple saint. C'est ce que nous allons voir dans un instant. Alors, je posais tout à l'heure la question, comment changer d'identité ? Réponse, en plaçant notre confiance en Jésus-Christ, afin que notre vie ait un solide fondement qui dure éternellement. À la question, comment se souvenir de notre identité chrétienne ? Eh bien, en revenant aux fondamentaux, la foi en Jésus-Christ et la mise en pratique de ses paroles transmises par ses apôtres prophètes. Troisième question, à quoi va aboutir la construction ? Quel est le projet de construction ? Verset 21. C'est en lui que tout l'édifice, en lui en Jésus-Christ, que tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Notez d'abord que tout repose sur le Christ. Paul dit, c'est en lui que les choses se font, c'est en lui, par lui que les choses existent. On retrouve exactement la même expression au verset 22 qu'on verra dans un instant. C'est en lui que vous êtes édifiés. Remarquez aussi que cet édifice n'est pas fixe, mais il grandit, ou il s'élève, selon les traductions. Pierre, l'apôtre, j'en parlais il y a un instant, s'exprime dans ces termes. Je lis quelques versets pour illustrer ce que Paul est en train de dire ici. Approchez-vous de Christ, la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. En effet, il est dit dans l'Écriture, « Je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse. Celui qui croit en elle n'en aura jamais honte. » Elle est donc précieuse pour vous qui croyez. Quant à ceux qui désobéissent, la pierre rejetée par ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. Elle est aussi une pierre qui fait obstacle et un rocher propre à faire trébucher. Ils s'y heurtent parce qu'ils désobéissent à la parole et c'est à cela qu'ils ont été destinés. Il y a ceux qui fondent leur vie sur Jésus-Christ. Et il y a ceux qui rejettent le Christ. J'aimerais ici retenir l'expression « pierre vivante » que l'apôtre Pierre utilise. L'édifice que Dieu est en train de construire, l'Église, est un temple vivant. Et Paul dit que cet édifice est bien coordonné. Pourquoi ? Eh bien, d'une part, parce que la pierre d'angle a été bien posée, et donc l'édifice qui est construit dessus est bien aligné et stable. Et aussi parce que Dieu est à l'œuvre. C'est lui le maître d'œuvre. Et il n'est pas dans son bureau en attendant que les ouvriers bossent sur le terrain. Il n'y a pas dans la construction de l'église de vices cachés. Il n'y a pas de retard dans les travaux. Il n'y a pas de problème de coordination entre les différents corps de métier. Le but de cette construction, c'est ce que dit Paul ici au verset 21, c'est que l'église devienne un temple saint dans le Seigneur. Et Paul utilise ici le temple comme une métaphore, comme une image. Dans le Nouveau Testament, le mot temple comme image désigne trois choses. Dans 1 Corinthiens, Paul dit que le temple, c'est le corps du chrétien. Paul dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit, la demeure dans laquelle Dieu habite en vous. Dans cette même lettre aux Corinthiens, Paul dit aussi, vous êtes le temple du Saint-Esprit, en s'adressant à la communauté de Corinthe, l'église locale. L'assemblée locale est aussi une image du temple de Dieu. Donc chaque chrétien individuellement, l'église locale, et troisièmement, le texte que nous voyons ici, Éphésiens 2, verset 21, c'est tout l'édifice, toute l'église, tous les croyants de tous les temps, tous ceux qui ont été appelés au salut par Dieu. Tout cela forme un temple saint pour le Seigneur. Remarquez que ces trois sens de l'image du temple ne désignent jamais dans le Nouveau Testament le bâtiment dans lequel les croyants se réunissent. Lorsque nous disons que nous allons à l'église, c'est une facilité de langage, mais ce n'est pas le langage biblique du Nouveau Testament. Jamais les croyants ne vont à l'église. Et pourtant, nous le chantons régulièrement. J'ai regardé comme ça dans quelques-uns de nos chants ce qui est dit du temple ou de la maison. Je vous cite comme ça quelques phrases. Dans la maison du Père, nous voici tous rassemblés. J'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis, parvis du temple. Moi, je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel. Là sont réunis mes frères et mes amis, là, dans ce lieu. Nous apportons dans ta maison un sacrifice de louange. » Ou encore, « Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. » Eh bien, vous voyez, ici, dans ces paroles, la louange s'exprime dans le langage de l'Ancien Testament. Au temps où les Israélites venaient effectivement au temple à Jérusalem pour offrir des sacrifices. Or, Jésus est venu accomplir une fois pour toutes le sacrifice qui nous sauve du péché. C'est la bonne nouvelle de l'évangile écrite par les apôtres du Nouveau Testament. Lorsque donc nous chantons ces chants, ces paroles, nous ne devons pas les prendre au pied de la lettre. Nous ne venons pas à l'église comme les Israélites venaient au temple. En fait, ce dimanche matin, nous ne sommes pas venus à l'église et puis nous rentrons chez nous. Ce matin, c'est l'église de Jésus-Christ qui se rassemble dans ce local et dans d'autres locaux pour louer Dieu. L'église, ce sont les gens, des hommes et des femmes pécheurs que Dieu a rachetés pour qu'ils lui appartiennent et forment un peuple, un corps, une famille, un temple à sa gloire. Vous voyez toutes ces images que Paul utilise. Eh bien, ce temple, il a pour vocation de devenir saint. Un temple saint, un peuple saint. Et non pas un bâtiment sacré. Vous êtes entré ce matin dans ce bâtiment, ça ne va pas vous rendre meilleur. Moi non plus d'ailleurs. Ce n'est pas le bâtiment qui est saint. ce sont les croyants. Ils le sont déjà, ils le sont aussi en espérance, puisqu'ils sont encore pécheurs. L'Église comme édifice qui s'élève, qui grandit pour devenir un temple saint. Eh bien, dans cette construction, Paul dit, et ce sera le quatrième point, « Vous êtes édifiés ensemble », verset 22. « C'est en lui que vous aussi vous êtes édifiés ensemble pour former une habitation de Dieu en esprit. » Si le bâtiment qu'on appelle souvent l'Église n'a aucun pouvoir sur notre foi, par contre, ce qui se passe lorsque l'Église est rassemblée peut toucher notre vie. J'ai déjà évoqué tout à l'heure la solidarité entre chrétiens. Vous êtes concitoyens des saints, vous êtes membres de la famille de Dieu. Paul ici construit un mot qu'on pourrait traduire par co-édifier. Vous êtes co-édifiés, vous êtes édifiés ensemble. Si l'édifice est bien coordonné, comme Paul le dit, c'est aussi parce que chaque pierre vivante, nous dit Pierre, prend sa place et sa part dans l'édifice. Individuellement, chaque chrétien est comme un temple dans lequel habite l'Esprit de Dieu. Mais l'Église aussi est comme un temple. Personne n'est l'Église, le temple à soi tout seul. Nous avons besoin les uns des autres. Dieu nous construit, Dieu nous édifie ensemble. À ceux qui auraient des doutes sur cette question et qui pensent qu'ils pourraient vivre leur foi seulement de manière individuelle, avec l'idée « moi je suis le temple du Saint-Esprit, je n'ai pas besoin des autres », voilà ce que dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. « Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. » Hébreux chapitre 10, versets 24 et 25. Je reviens à Éphésiens, Paul dit « vous aussi hein, ». Les Éphésiens, et nous pouvons reprendre ces paroles à notre compte, « vous aussi, les chrétiens qui sont à Blanc-Mesnil, à Drancy et dans d'autres villes, vous aussi, vous avez votre place dans le projet de Dieu ». Quelle église ! Le problème, c'est que quand on regarde l'église, en général, on ne la trouve peut-être pas très sainte. On ne la trouve peut-être pas très bien coordonnée. Elle n'est pas toujours fondée sur la parole des apôtres, mais peut-être sur les idées de telle ou telle personne qui parle plus fort que les autres. Ce constat est juste. Il n'y a pas de chrétien qui soit déjà arrivé à la perfection, ce qui correspond pourtant à ce qui est déjà écrit sur notre carte d'identité céleste. Mais nous sommes encore pécheurs. L'Église est encore marquée par le péché pour un temps. Et il faut reconnaître que la construction est encore en chantier, dans le mauvais sens du terme. Mais j'aimerais attirer votre attention sur ce point. Bien que l'Église soit encore en chantier, en construction, et que le péché habite encore en nous, cela ne justifie pas pour autant de nous passer d'une vie d'Église. Je répète, bien que le péché habite encore en nous, et dans nos relations les uns avec les autres, et qu'il n'y a ni chrétien ni église parfaite, cela ne justifie pas le fait que nous nous passions d'une vie d'église. La tentation qui nous guette, c'est celle de l'individualisme. Ma prière, ma Bible, ma religion, éventuellement mon pasteur ou mon prédicateur que j'ai trouvé sur internet et qui me dit des choses qui me caressent les oreilles dans mon sens à moi, ou qui me dit ce que je dois penser. Et puis voilà, je me fais ma petite religion. Bon, je viens bien une fois de temps en temps comme ça pour dire bonjour, mais Voilà, j'ai ma vie de foi à moi. Il n'y a pas d'église parfaite, c'est vrai, pas encore. Le temple saint n'est pas encore totalement saint. La question que nous devons nous poser alors, c'est comment est-ce que nous laissons, chacun et ensemble, le Saint-Esprit nous édifier avec les autres et non seulement tout seul. Les autres, et les frères et sœurs n'échappent pas à cela, sont parfois une blessure pour notre ego. Mais c'est une blessure qui peut être salutaire si j'en fais quelque chose de positif. Je ne sais pas tout, je ne suis pas encore arrivé au sommet de l'édifice, et je ne suis pas le temple tout seul. Dieu nous sanctifie aussi par le contact les uns avec les autres. Parfois par des conflits qu'il faut régler. Dieu nous appelle, Jésus nous appelle, à aimer des gens que nous n'avons pas choisis. À être patient avec des gens qui sont responsables dans l'Église. À laisser de côté, parfois, nos petites revendications personnelles pour contribuer à l'édification de l'ensemble. Eh bien, cela, c'est un défi, parce que c'est difficile. C'est un défi, et en même temps, c'est une formidable aventure, parce que c'est l'œuvre de Dieu, c'est le projet de Dieu. Dieu aime l'Église. Dieu aime l'Église. Jésus en parle comme de son épouse. Dieu aime l'Église. Et nous, est-ce que nous aimons l'Église de Dieu? Je vous propose quelques pistes de réflexion pour terminer. Quelques phrases ou quelques idées que nous avons peut-être en tête ou que nous avons peut-être parfois dites et qui sont peut-être des indices que quelque chose a besoin d'être guéri ou transformé ou réglé dans notre cœur par rapport à l'Église comme temple de Dieu. Juste quelques phrases ou quelques idées. Par exemple, la formule « il n'y a pas d'amour dans l'Église » ou dans cette Église. Ça, c'est quand nous voyons le côté négatif ou quand nous ne nous sentons pas reconnus comme nous estimons devoir l'être. Alors, nous pouvons être tentés de penser ou de dire « il n'y a pas d'amour ici ». Autre formule, « l'Église, c'était mieux avant ». Et là, quand nous pensons cela, nous avons peut-être perdu de vue que l'Église grandit, que l'Église s'édifie et qu'elle n'est pas figée dans la pierre du bâtiment. Ou une phrase qui lui ressemble, « Il faut revenir à la vie des premiers chrétiens ». Là, c'est la vraie Église. Et on considère parfois le livre des Actes des Apôtres comme une sorte de jardin d'Éden de la vie de l'Église, jardin qui aurait été perdu et que nous nous donnons comme mission de retrouver. Comme s'il n'y avait pas eu de problème dans le livre des Actes et dans la vie d'Église des premiers chrétiens. Nous idéalisons la vie des premiers chrétiens. Autre idée, entretenir, plus ou moins à jour, une liste de tout ce qui ne va pas dans l'Église. C'est quand certaines choses ne se passent pas comme on voudrait. Oh, il n'y a pas de problème doctrinal majeur. Il n'y a pas d'hérésie, il n'y a pas de faux enseignements. Mais il y a certains détails qui pour nous sont aussi importants que des points de doctrine majeurs, principaux. Quelques exemples, la forme que doit prendre la Sainte Cène, la forme de l'offrande, la forme du culte, la façon d'organiser la vie de l'Église, d'organiser certains ministères, certains services, les questions de tenue vestimentaire ou d'aliments à manger ou à ne pas manger, le rôle des hommes et des femmes, la qualité de la musique, etc., etc. Toutes ces choses sont importantes dans la vie d'une église, mais elles ne sont pas essentielles pour la croissance de l'édifice. Et donc, si notre sentiment d'appartenance à l'église dépend de ces choses importantes, mais secondaires, alors nous allons être souvent déçus, les amis. Et nous pouvons entretenir, plus ou moins consciemment, une liste de rancœurs qui peut nourrir une certaine amertume dans notre cœur. Ne laissons pas ces choses-là prendre racine. Déposons-les au pied de la croix. Prions et réalignons nos motivations sur la pierre d'angle, Jésus-Christ, et sur ce que disent les apôtres, afin que notre pierre vivante ajoutée à l'édifice repose sur le rocher et non pas sur notre humeur du moment ou sur l'évolution des structures d'une assemblée locale. Alors, quelques clés pour rebondir si nous avons ce genre de pensée ou ce genre de parole, pour transformer ces paroles en choses plus positives. Si nous pensons qu'il n'y a pas d'amour dans l'Église, alors peut-être nous pouvons méditer le chapitre 13 d'un Corinthien et nous demander « Comment puis-je aider mon assemblée à grandir dans l'amour ?» Et plutôt que d'attendre que les autres m'aiment, moi, quel amour ai-je à offrir ? Quel amour est-ce que j'ai à vous offrir ? Si je pense « l'Église c'était mieux avant » ou il faudrait revenir à l'église ancienne, je pourrais me demander que puis-je dire ou que puis-je faire pour que nous grandissions ensemble afin de former un temple saint dans le Seigneur. Il faut nous nourrir de l'expérience du passé et des croyants qui nous ont précédés. Et il y a une nuée de témoins qui peut nous encourager, Hébreux chapitre 11. Mais nous ne vivons pas dans le premier siècle. Nous vivons au 21e siècle et il y a derrière nous 20 siècles de christianisme. Si nous entretenons plus ou moins consciemment une liste de griefs, de choses qui pour nous ne vont pas dans l'Église, l'Écriture nous encourage ce matin à revenir aux écrits du Nouveau Testament pour distinguer les principes qui, eux, ne changent pas et qui sont les fondements sur lesquels nous devons poser notre vie et les contextes sociaux, culturels qui changent selon les époques et qui ne sont plus forcément à prendre au pied de la lettre dans notre contexte aujourd'hui. J'avais oublié une pensée ou une parole qu'on pourrait se dire, c'est impossible, ça ne marche pas. Construire l'Église, ça ne marche pas. C'est une belle idée, c'est un vœu pieux, un temple saint. Mais regardez la réalité en face, le péché est là. Nous ne sommes pas bons, nous n'arrivons pas à nous aimer les uns les autres. Et dans une certaine mesure, c'est vrai que nous n'y arrivons pas. Parce que c'est une œuvre de la grâce de Dieu en nous. Mais ce n'est pas impossible. Celui qui nous dit que c'est impossible, c'est notre adversaire, le diable, celui qui nous accuse, qui vient nous rappeler nos péchés ou les péchés des autres pour nous dire non, ce n'est pas possible. Alors rappelons-nous que c'est Dieu qui bâtit son église, temple. Ne nous décourageons pas. C'est lui qui nous transforme, c'est lui qui transforme son église. C'est en lui que tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est en lui que vous aussi, vous êtes édifiés ensemble pour former une habitation de Dieu en esprit. Je vous invite à prier. Seigneur, tu es un grand Dieu qui a mis en place un grand projet. Et nous pouvons nous sentir tout petits devant ce projet immense que tu t'es donné d'accomplir au fil de l'histoire humaine. Seigneur, aide-nous à ne pas avoir peur, aide-nous à ne pas avoir honte de l'Évangile et de ton œuvre dans nos vies. Aide-nous à nous aimer les uns les autres. Apprends-nous à nous édifier les uns les autres, ensemble. Nous avons besoin de toi pour faire cela. Nous avons besoin des uns des autres pour faire cela. Que ces paroles puissent nous encourager à nous intéresser davantage à l'Église, à aimer davantage l'Église. Tu vois que le péché est encore là. Et tu nous as appris cette prière, « Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. » Seigneur, nous te prions ce matin, délivre-nous du mal qui nous colle à la peau et qui parfois nous empêche de nous approcher les uns des autres, de nous aimer les uns les autres, de grandir ensemble et de privilégier notre religion individuelle. Seigneur, transforme notre regard les uns sur les autres, transforme notre regard sur l'Église, sur ton Église. Amen.